Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux uns et aux autres. Il y a certaines personnes qui sont de passage et on vous salue tout particulièrement. Merci aussi à l'équipe qui a fait cette lecture, effectivement plus longue que d'habitude du texte biblique. Et je vais commencer ce message en parlant de moi. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui est du genre à se plaindre. Mais comme tout le monde, cela m'arrive quand même. Et en particulier en été, lorsqu'il fait très chaud. Là, je commence à râler. Et ma femme le sait, hein. Pour certains, c'est le froid qui suscitera les plaintes. Et pour d'autres, c'est la pluie. Bref, en France, à n'importe quel moment de l'année, nous avons tout le temps quelque chose à redire sur la météo. Or, nous savons que le chaud, le froid, la pluie et le beau temps nous sont apportés par Dieu. Et je ne pense pas trop m'avancer en disant que lorsque nous nous plaignons de la météo, nous nous plaignons surtout de notre Créateur qui aurait pu faire les choses autrement. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire? Et en cela, nous ne sommes pas si différents des Israélites dans le texte d'aujourd'hui que nous avons lu tout à l'heure. Eux aussi sont les champions de la plainte. Et c'est une attitude qui peut nous étonner quand nous pensons au fait qu'ils viennent d'être délivrés par Dieu de la plus grande puissance de l'époque. Ils ne reverront plus ceux qui les avaient tenus en esclavage pendant si longtemps. Mais maintenant, une autre épreuve les attend. Marcher dans le désert, peut-être sous une chaleur accablante, avec des enfants et des troupeaux. Cela ne devait pas être simple. Autre difficulté, dans le désert, l'eau n'est pas toujours bonne et il n'y en a pas partout non plus. Et ne parlons même pas de la nourriture. Que peut-on bien manger dans un désert? Et tout cela, nous allons le voir dans un instant. Et vous pensez bien qu'avec un texte d'une telle longueur, riche en enseignements, je ne pourrais pas tout aborder. Mais j'espère au moins faire ressortir l'essentiel pour nous ce matin. Nous reprenons ce matin, à partir d'aujourd'hui, notre série sur le livre d'Exode. Après une première partie l'année dernière intitulée « Le Dieu qui libère », nous entamons une deuxième partie qui a pour titre « Le Dieu qui commande ». En effet, d'ici quelques semaines, nous évoquerons le moment où Dieu donne sa loi à son peuple, avec qui il va faire alliance. Et cette année, tout particulièrement, tout spécialement, nous prendrons le temps d'aborder chacun des 10 commandements. Mais maintenant, revenons sur le texte de ce matin, qui regroupe 3 récits. 3 récits avec des points communs évidents. J'espère que vous les avez aussi remarqués à la lecture. 3 récits avec des points communs évidents, des choses qui se répètent. L'auteur inspiré par Dieu, qui n'est autre que Moïse ici, a volontairement mis ensemble ces 3 moments du début de cette traversée du désert, qui nous le lisons déjà ici. Durera 40 ans. Il faut évoquer ce début difficile. Et je commencerai par 3 observations. Dans ces 3 récits que nous avons lus, le peuple d'Israël, faisant face aux difficultés du désert, aux conditions difficiles, se met à murmurer contre ses leaders. Les Israélites se plaignent et ils commencent à regretter leur vie d'avant, celle qu'ils avaient en tant qu'esclaves en Égypte. Et tout au long de ces 3 récits, nous notons même une amplification d'une étape à l'autre. Chapitre 15, verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ?» Exode 16, versets 2 et 3, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ?» Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Et au chapitre 17, versets 2 et 3, alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Et verset 3, le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait sortir ou quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif? Moi, mes enfants et mes troupeaux. » J'ouvre juste ici une parenthèse par rapport au chant que nous avons chanté tout à l'heure. Lorsque nous demandons à Dieu d'entendre notre plainte, ce n'est pas ce genre de plainte. Là, le peuple est en train de se plaindre de Dieu, que Dieu ne pourvoit pas à ses besoins. Dans le chant que nous avons chanté tout à l'heure, nous avons simplement dit « Entends ma plainte quand je souffre, quand je passe par des difficultés, mais je m'adresse à toi. » Ici, le peuple ne s'adresse pas à Dieu, il s'adresse au contraire à une murmure contre Dieu. Vous voyez la distinction ? Donc, à deux reprises, face à une telle agitation du peuple, et vous imaginez bien, hein, un peuple nombreux, très nombreux, Moïse crie à Dieu, il ne sait plus quoi faire. Et surtout, cette agitation du peuple est une offense à l'égard de Dieu, parce que c'est de lui, en réalité, qu'ils se plaignent. Ça, c'était la première observation. Deuxième observation, dans les trois récits, eh bien, nous remarquons que Dieu, en fait, n'abandonne pas les Israélites, bien qu'il le mériterait. Il pourrait les laisser mourir dans le désert. Mais puisque c'est le peuple que l'Éternel est allé sauver, il assure sa survie dans le désert. En répondant à ses besoins. Écoutez encore ces versets que nous avons déjà lus. Chapitre 15, verset 24. L'Éternel, lui, c'est-à-dire à Moïse, indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Cette eau qui était amère devint douce. Chapitre 16, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. » Et chapitre 17, verset 6, « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » À chaque fois que le peuple fait face à un manque et qu'il se plaint, Dieu répond sans même s'emporter, ni même faire abattre son jugement, comme ce sera le cas plus tard. Au contraire, Dieu est extrêmement patient. Il ne s'emporte pas. Et il continue de se révéler à son peuple. Ça, c'était la deuxième observation. Dieu répond aux besoins de son peuple. La troisième observation, c'est que nous voyons à travers ces trois récits la relation que Dieu établit avec ce peuple, que Dieu veut avoir avec ce peuple. Il l'a libéré de l'esclavage de l'Égypte pour qu'il puisse le servir, lui, l'Éternel. Or, ce peuple est tout jeune. Ce peuple est inexpérimenté. Ce peuple a encore besoin d'apprendre. Il a encore besoin de mieux connaître son Dieu. Et c'est pourquoi à deux reprises, il est question de mise à l'épreuve. Par exemple, au chapitre 15, versets 25 à 26, nous lisons que ce fut là où l'eau était amère, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Verset 26, il dit, « Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. » car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Et au chapitre 16, eh bien, nous voyons aussi que Dieu exprime la même idée. Verset 4, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. » L'Éternel est en train d'éduquer son peuple, de lui apprendre à lui obéir, à suivre ses instructions. Mais à ce stade, Israël est comme un enfant qui trébuche encore en marchant. Et certains ont du mal, nous l'avons lu, ont du mal à écouter. Ils ont du mal à écouter Dieu parce qu'en réalité, ils ont du mal à croire. Au sujet de la manne, cette nourriture que Dieu donne miraculeusement et quotidiennement à son peuple, Moïse avait dit de ne pas en laisser pour le lendemain. Et vous vous souvenez ce que le peuple a fait ? Dans le doute, certains ont fait l'extrême contraire. Ils en ont laissé pour le lendemain. Et résultat, il y a eu des vers et ça sentait mauvais. Nous lisons encore que ici Moïse fut irrité contre ces gens parce qu'ils n'écoutaient pas ce que Dieu leur demandait de faire. Et de la même manière, Dieu donne exprès le double de la ration le sixième jour, pour que durant le septième jour, le jour du sabbat, le peuple puisse se reposer et n'ait pas besoin de ramasser sa nourriture. Mais qu'est-ce que font certains ? Exode 16, verset 27, le septième jour, quelques membres du peuple sortirent pour en ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas. Cette fois-ci, c'est Dieu qui exprime son indignation. Au chapitre 16, verset 28, « Jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois ?» Jusqu'à quand ? Mais en dehors de cette remontrance qui est sérieuse, Dieu ne se met pas en colère dans aucun de ces trois récits. Cela ne signifie pas pour autant qu'il tolère ou qu'il approuve les plaintes de son peuple, mais il se montre patient. Il est patient avec son peuple, qui est encore comme un bébé. Par contre, une fois que le peuple se sera engagé envers Dieu, à travers une alliance, cette fois-ci, les choses seront différentes, parce que le peuple s'est engagé. Dieu montrera qu'il est Dieu, et que lui désobéir coûte cher. Mais pour l'instant, c'est encore le temps de sa patience. Et par ce survol, ces trois observations que j'ai faites, nous comprenons que Dieu a conduit son peuple dans le désert pour y faire son éducation, afin qu'il devienne vraiment le peuple saint qu'il est appelé à être. Car Dieu est saint. Dans le désert, les Israélites, malheureusement, révèlent le triste état de leur cœur. Ce sont des gens qui sont plaintifs, qui ne font pas confiance au Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Dieu a pourtant eu compassion de ce peuple qui souffrait en Égypte. Dieu est allé les chercher, il a tant fait pour eux. Il suffit de penser aux 10 plaies. Dieu a vaincu l'armée du Pharaon et pourtant, 3 jours après avoir célébré l'Éternel pour sa victoire, ils sont là en train de murmurer. Et c'est un problème. C'est un problème parce que si ce motif de la plainte apparaît dans ces 3 récits et plus tard encore dans le livre des Nombres, c'est pour souligner que ce peuple a un problème. Comme nous l'avons vu, c'est un peuple qui doute, qui ne croit pas totalement à ce que Dieu dit. C'est un peuple qui ne fait pas confiance au Dieu qui pourvoit. C'est un peuple qui doute que Dieu veuille vraiment son bien, comme s'il avait sauvé les Israélites pour leur malheur. Et avez-vous entendu leur plainte tout à l'heure ? Exode chapitre 16, verset 3. Les Israélites leur dirent « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte ? Quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel ? » Le problème de ce peuple, c'est qu'il se focalise sur ce qui lui manque et qu'il ne compte pas sur le Dieu qui pourvoit, qui les conduit dans ce voyage à travers ce désert. Le problème, c'est que malgré la généreuse provision de Dieu, le même scénario recommence. À Mara, le peuple a finalement pu boire de l'eau qui était au départ amère. Et la fin de ce premier récit ne doit pas être négligée. Nous lisons dans Exode 15, verset 27, « Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. » Donc, peu après cet épisode où ils ont pu enfin boire de l'eau, il y avait encore beaucoup d'eau, beaucoup plus loin. Il s'agissait juste de s'attendre à Dieu, de compter sur lui. Dieu les a conduits à cet endroit rafraîchissant et ils y sont restés un certain temps. Nous le savons, quelques semaines. Et pourtant, à l'étape suivante, après avoir vécu tout cela, à l'étape suivante, dans le désert de Sin, ils se remettent à se plaindre. Ils veulent maintenant de la viande et du pain. Mes amis, Dieu est bon. Malgré ces plaintes, Dieu est bon. Plusieurs fois, nous lisons que Dieu a entendu les murmures dirigés contre lui. Il les a entendus et il va leur accorder, mais uniquement dans sa grâce, ce qui leur manque. Par sa générosité, par cet acte de bonté, Dieu révèle sa gloire. Moïse et Aaron leur disent bien versets 6 et 7 du chapitre 16, « Ce soir, alors il manque juste une lettre, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. » Qu'est-ce qui se passe juste après cela? Le soir, des cailles arrivent précisément à cet endroit. Selon certains commentateurs, sans doute qu'elles avaient fait un long voyage et épuisées, elles sont tombées, tout simplement. Possible, non? C'est plausible. Le peuple reçoit sans effort de la viande. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le pain qui vient de Dieu leur apparaît. Cette manne, cette nourriture que le peuple n'a jamais vue. Et malgré cette provision extraordinaire, à l'étape suivante, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le peuple recommence. Et il va jusqu'à provoquer Dieu avec cette question qui révèle toute son arrogance. L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? On peut se demander, mais qu'est-ce que le peuple d'Israël n'a pas compris dans tout ça? C'est une question terrible à poser. Est-ce que l'Éternel, après tout ce qu'ils ont vécu, est-ce que l'Éternel est au milieu de nous, oui ou non? Tel est l'état du peuple peu de temps après sa sortie d'Égypte. Et malheureusement, ça n'ira pas en s'arrangeant. Et d'emblée, comme je l'ai évoqué au début du message, nous devons admettre que parfois nous ressemblons à ce peuple ingrat, comme oublieux de tout ce que Dieu a fait pour eux, ce que Dieu a fait pour les sortir de leur misère. Est-ce que Dieu n'a pas eu compassion de nous aussi? Est-ce qu'il ne nous a pas libérés de l'esclavage où nous nous trouvions avec le péché, enchaînés à vivre pour le péché? En Christ, c'est ce que Dieu a jugé bon de faire. Et quand les événements ne tournent pas à notre avantage, quand le manque se fait sentir, quand rien ne va comme nous le voudrions, comment réagissons-nous? N'est-ce pas souvent par la plainte, par les murmures? Et cela ne se passe pas qu'en dehors de ces murs. L'Église n'est pas épargnée par ce fléau. Et plus de 3000 ans nous séparent de ces Israélites, et pourtant l'être humain reste désespérément le même, profondément égocentrique, centré sur lui-même. C'est d'abord moi et mes besoins. Le peuple se plaint de ce qu'il n'a pas, au lieu de lever les yeux vers Dieu pour s'attendre à lui. Est-ce que ces temps-ci, nous avons besoin de lever les yeux vers le Seigneur pour nous attendre à lui, pour lui faire confiance, de nouveau. Et dans ce que nous vivons en ce moment, c'est peut-être une période de célibat pour certains, une période où nous désirons être parents, c'est peut-être une période où nous sommes malades, ou encore d'autres difficultés que je n'imagine même pas. Est-ce que nous doutons que Dieu soit bon, que Dieu veuille toujours notre bien, comme il voulait le bien d'Israël, son peuple? Si nous appartenons au Seigneur, si nous faisons partie de son peuple grâce à Jésus-Christ, Dieu, comme nous l'avons chanté, est toujours de notre côté. Dieu est toujours de notre côté. Par grâce, bien sûr. Mais grâce à Jésus-Christ, nous avons obtenu sa faveur. Dieu répond vraiment à nos besoins. Il ne le fait pas comme un dû à notre égard, comme si nous le méritions. Pas du tout. Il agit ainsi parce qu'il est précisément comme ça. Notre Dieu est comme ça. Il est bon. Il est plein de grâce. Il est amour. Il le fait parce que nous sommes à lui et qu'il veut prendre soin de son peuple. En nous délivrant de notre esclavage du péché, en nous attirant à lui dans la liberté, Dieu nous montre combien nous comptons à ses yeux. Et pourtant, nous n'en sommes pas dignes. Pourtant, nous ne sommes pas à la hauteur. Pourtant, nous nous plaignons si facilement comme les Israélites. Or, face à tant de bonté, tant de grâce, tant de générosité à notre égard, pouvons-nous sérieusement encore nous plaindre ? Un des textes du Nouveau Testament, qu'il serait intéressant de méditer, parallèlement à la lecture d'Exode, se trouve dans la première lettre aux Corinthiens. À propos justement de ces Israélites d'autrefois, l'apôtre Paul écrit, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 10 à 12, « Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » Là, Paul fait référence à un autre épisode que notre texte, mais nous en gardons juste le principe. Ne murmurons pas. Ne nous plaignons pas, comme si Dieu nous devait quoi que ce soit. D'après le texte de ce matin, nous voyons que Dieu veut vraiment répondre aux besoins de son peuple. Ne murmurons pas. Ne murmurons pas, car dans sa grâce, Dieu répond à nos besoins. Ne murmurons pas, car dans sa grâce, Dieu répond à nos besoins. Tel est l'enseignement du texte, je crois, qui nous pousse à faire confiance à Dieu et à nous attendre à lui. Ne murmurons pas. Comment finalement ne pas tomber dans la plainte ? Comment éviter de tomber dans ce cycle de murmures ? Comment, lorsqu'il fera trop chaud à mon goût, vais-je arrêter de me plaindre du temps qu'il fait ? Eh bien, premièrement, d'abord en comptant sur Dieu, en dépendant de lui, et j'insiste là-dessus, chaque jour. Si Dieu répond effectivement à mes besoins, je dois donc compter sur lui. Par rapport à mes besoins, je dois pourtant reconnaître que justement, Dieu s'occupe de moi chaque jour. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit à Moïse ? Exode chapitre 16, versets 4 à 5. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. » Et même concernant le sixième jour, il est question d'une double portion ramassée par rapport à la portion ramassée chaque jour. Dieu a accordé de la nourriture à son peuple et il y en a eu suffisamment pour tout le peuple et pour chaque jour. Et tout cela durant 40 ans. Certains d'entre nous n'ont même pas 40 ans. Vous imaginez une fidélité qui dure 40 ans. Dieu a nourri jour après jour son peuple qui avait pourtant murmuré contre lui. Rendons-nous compte que Dieu pourvoit quotidiennement à notre pain quotidien, à notre nourriture. Il nous arrive de nous plaindre, de devoir faire les courses. Mais vous voyez bien que le peuple d'Israël devait quand même aller ramasser cette manne. Donc il faut aller faire les courses en quelque sorte. Et même cuisiner derrière. Au-delà d'une question de pain, Dieu nous enseigne ce matin à compter sur lui chaque jour. Aujourd'hui, demain, après-demain et les jours qui suivent, chaque jour. Notre confiance en lui doit être renouvelée chaque jour. Vous n'avez pas fait confiance à Dieu une fois pour toutes. C'est chaque jour qu'il s'agit de dépendre de lui, de compter sur lui. Et Dieu donne suffisamment pour aujourd'hui. Voire parfois, il donne dans l'abondance, comme je l'ai déjà expérimenté. Et demain, il faudra de nouveau compter sur le fait que Dieu nous donne selon nos besoins. Et après-demain, et ainsi de suite. Et Jésus nous a bien enseigné à prier ainsi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Jésus nous a enseigné à prier ainsi. Donne-nous aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, notre pain de ce jour. Et moi, le premier, je ne pense que rarement à cette prière. Mais pourtant, cela nous enseigne justement à nous attendre à Dieu pour cette nourriture, pour notre nourriture de chaque jour. Et même s'il a pu vous arriver de manquer, parce que je ne connais pas toutes les histoires personnelles, mais s'il a pu vous manquer, que peut-être vous n'avez pas mangé pendant un jour, voire plus, vous êtes pourtant encore là ce matin, vivant. Preuve que Dieu a répondu à tout ce dont vous aviez besoin. Il le fait chaque jour. Et c'est pour cela que Jésus a de telles paroles en Matthieu 6. Et nous l'avons chanté aussi tout à l'heure. Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce sont des paroles qui nous invitent à la foi, à la confiance dans le Dieu qui pourvoit. Et juste une parenthèse ici, que mangerons-nous, que boirons-nous? Ça ressemble beaucoup aux plaintes du peuple d'Israël. Jésus rassure ses disciples. Le Père sait que vous en avez besoin. Le Père sait que vous en avez besoin. Il ne s'agit pas tant de se focaliser sur nos besoins que sur le Dieu qui répond à nos besoins. Il ne s'agit pas tant de se focaliser sur nos propres besoins que sur le Dieu qui répond à nos besoins. Y compris un besoin aussi important que le repos. Mais je ne l'aborderai pas aujourd'hui, cette question du sabbat. Je le ferai quand nous parviendrons à Exode 20 et que sera mentionné ce commandement du sabbat. Donc il ne s'agit pas tant de se focaliser sur nos besoins que sur le Dieu qui répond à nos besoins. Si nous nous focalisons sur nos besoins, ce qui risque d'arriver, c'est la plainte. Si nous nous focalisons sur le Dieu qui répond à nos besoins, ce qui risque d'arriver, et c'est un bon risque, c'est la confiance. Compter sur Dieu, dépendre de lui chaque jour. Donc demain, il faudra recommencer la leçon. Deuxièmement, comment éviter de se plaindre en reconnaissant notre plus grand besoin? Quel est notre besoin fondamental en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu? Quel est notre plus grand besoin? Je vous laisse juste y réfléchir un instant. L'enseignement de Dieu en donnant la manne n'était pas « vous avez besoin de manger », mais plutôt, comme nous l'avons dit, « vous avez besoin de moi ». Le plus grand besoin de chaque être humain est d'être en relation avec celui qui l'a créé. C'est ça, le plus grand besoin. Ce n'est pas qu'est-ce que je vais manger ce soir. Ce que les Israélites ont vécu avec la manne était aussi une préfiguration, l'ombre de quelque chose de meilleur. C'était déjà extraordinaire que Dieu donne de la nourriture 6 jours sur 7. Selon les besoins du peuple et pendant 40 ans. Ça, c'était vraiment incroyable, parce que ça se passait dans le désert. Mais comme l'a dit Jésus, après avoir multiplié le pain pour le peuple, vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et, vous connaissez la suite, et ils sont morts. Jean chapitre 6, verset 49. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Jésus se présente à son peuple comme ce qui est meilleur que la manne. Il décrit en Jean 6 le cadeau merveilleux que Dieu fait au monde. Et nous lisons ces paroles de Jésus. Jean chapitre 6, versets 33 à 35. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. et au verset 50 et 51, voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jésus est meilleur que la manne. Vos ancêtres en ont mangé et ils en sont morts. Jésus est meilleur que la manne. Jésus est le pain dont nous avons besoin. C'est le seul pain qui donne la vie éternelle. C'est le seul pain qui nous rassasie pleinement. Et un commentateur, Tim Chester, décrit ce que nous vivons quand nous sommes en quête d'une autre satisfaction. Voici son analyse. Nous, nous recherchons la satisfaction dans la richesse. Mais nos trésors ici-bas rouillent. Nous recherchons la satisfaction dans nos carrières professionnelles. Mais au mieux, une carrière débouche sur la retraite. Nous recherchons la satisfaction dans le regard admiratif des autres. Mais notre apparence décline. Ou notre influence s'érode. Ou une personne plus digne d'admiration nous éclipse. Nous recherchons la satisfaction dans nos relations personnelles. Mais des amis peuvent trahir ou décéder. Et même si toutes ces choses duraient tout le temps, nous, nous sommes mortels. Or, la mort nous prive de tout ce pourquoi nous avons vécu, car nous n'emporterons rien avec nous. À une exception près, Jésus. La mort ne nous volera jamais, Jésus. Si Jésus nous comble, dit ce commentateur, nous ne connaîtrons plus un seul jour où Jésus n'est pas suffisant. Pour avoir la vie éternelle, nous n'avons besoin que d'une seule personne, Jésus, le Fils de Dieu. Lui seul comble notre besoin le plus profond. Et prenons juste encore quelques instants pour entendre Jésus nous dire encore « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Si tu te lasses de courir d'une satisfaction à une autre satisfaction, sans jamais être durablement rassasié, sache que cette invitation est pour toi. Jésus est le pain de vie, celui qui te comblera complètement. Crois-tu cela? Mets ta foi en Jésus qui est le vrai pain descendu du ciel et qui donne la vie éternelle. Et pour mes frères et sœurs en Christ, qui ont justement accueilli ce pain de vie, sachez que nous avons toujours besoin de ce pain de vie. Nous ne l'avons pas accueilli une fois pour toutes. Nous avons toujours besoin de lui. À quel moment n'aurions-nous plus besoin de Jésus? Et je prie pour nous, afin que nous comprenions et que nous vivions le fait que Jésus est celui qui nous comble, plus que nos diplômes. Plus que notre carrière, plus que notre famille, plus que nos possessions, plus que la reconnaissance des autres, plus que tous nos divertissements. Jésus nous comble plus que tout cela. Et je prie vraiment que nous puissions comprendre et vivre cela. Parce que pour tout ce que je viens de citer, la famille, la carrière, les diplômes et les divertissements, pour tout cela, nous aurons toujours faim et toujours soif. Ça ne s'arrêtera jamais. Et sans doute que nous nous plaindrons de manquer justement à ce sujet si nous nous focalisons sur ces besoins-là. Mais Jésus, qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité, qui nous a ainsi réconciliés par son œuvre avec le Père, Jésus en qui nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle, Jésus nous montre par tout ce que je viens de citer, qu'il est suffisant pour nous. Est-ce que vous avez encore de l'énergie pour un dernier point? De toute façon, je vous tiens un peu captif, hein, je l'admets. Le dernier point, c'est de pouvoir reconnaître la grâce immense de Dieu. Vous savez, je sais très bien qu'après ce message, nous allons recommencer à nous plaindre. Je le sais très bien. Et quand je dis « nous », je m'inclus dedans, bien sûr. nous allons recommencer à nous plaindre. Nous allons reproduire ce que les Israélites ont fait. Dieu est bon et patient avec eux, et cela ne les a pas empêchés de murmurer une troisième fois contre Moïse, et même de forcer la main à l'Éternel. Est-ce que oui ou non, il est avec nous ? Je reviens un instant sur ce qui s'est passé justement, sur cet épisode de Réphidim. Il n'y avait pas d'eau à proximité. Et dans ce désert, le peuple avait tellement soif. Et Moïse ne savait pas quoi faire. Il n'y a pas d'eau, donc qu'est-ce qu'il peut faire, Moïse ? Lui, simple mortel. Et le peuple était très remonté contre Moïse, prêt à se saisir des pierres qui étaient sous leurs pieds pour le lapider. Et vous sentez que ici, la tension était extrême. Et heureusement, Moïse a le bon réflexe. Il se tourne vers Dieu, il crie à lui. Et voici la réponse de Dieu, tellement importante. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Une fois de plus, face au murmure du peuple, Dieu ne déchaîne pas sa colère. Pourtant, là, on atteint quand même un paroxysme. Mais cette fois-ci, c'est le peuple qui est en train de mettre Dieu à l'épreuve. Et Dieu demande à Moïse de prendre son bâton. Ce bâton, et nous le voyons ici, au verset 5, ce bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve. Et cela fait référence à la première plaie d'Égypte. C'est avec ce bâton que l'eau du Nil avait été changée en sang. Donc, ce bâton est en fait un instrument de jugement. Donc, prends ce bâton qui est un instrument de jugement. Prends-le avec toi. Et là, on peut se demander, avant de lire la suite, mais qu'est-ce que Moïse va faire avec ce bâton ? Est-ce qu'il va se mettre à l'utiliser pour punir le peuple qui s'est mis justement à gémir ? Est-ce qu'il va utiliser ce bâton pour frapper sur quelqu'un ? Observez ici ce qui se passe. Observez où se trouve Dieu à ce moment-là. Au verset 6. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. Alors je vous pose la question, qui est-ce que Moïse est en train de frapper avec le bâton du jugement ? Vous pouvez me répondre. Qui est-ce que Moïse est en train de frapper avec le bâton du jugement ? Plus fort ? Alors Christ, c'est un raccourci, Christ, mais effectivement, on en parlera. Mais ici, Dieu, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher. Je me tiendrai devant toi. Dieu se tient devant Moïse. Moïse utilise le bâton pour frapper qui ? Dieu, bien sûr. Le jugement qui devait s'abattre sur le peuple d'Israël, qui a osé provoquer Dieu, tombe sur Dieu lui-même. C'est ce que nous voyons ici. Et de là, l'eau jaillit pour désaltérer le peuple. Mes amis, nous n'avons pas fini de connaître Dieu qui nous a sauvés, ce Dieu qui nous a sauvés. Bien évidemment, maintenant que nous avons dit tout ça, nous avons de bonnes raisons de voir dans cette scène que je viens de décrire une préfiguration du jugement qui tombera des siècles plus tard sur Jésus à la croix. Le jugement, le châtiment qui devait s'abattre sur nous est tombé sur le Fils de Dieu. Et nous retrouvons le même verbe frapper, notamment en Ésaïe 53, verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Et comme l'a mentionné tout à l'heure Sylvia, l'apôtre Paul, bien sûr, très clairement identifie ce rocher à Christ. Il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que nous avons évoqué tout à l'heure, verset 4. et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Le problème de nos plaintes et de nos murmures n'est pas juste quelque chose qui dérange Dieu, ou qui le gêne, ou qui ne veut pas écouter. Il nous faut toujours nous rappeler que nos plaintes et nos murmures méritent le châtiment de la mort. Mais là aussi, Dieu a pourvu. Là aussi, en Exode 17, en se tenant sur le rocher et en recevant le coup du jugement, Dieu a pourvu à ce que le peuple ne soit pas frappé à ce moment-là. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui se tient sur une croix et qui subit à notre place la colère de Dieu à cause de nos fautes et de nos transgressions. Allons-nous encore nous plaindre de ce qui nous manque quand le Dieu qui se révèle à nous ce matin est allé si loin dans son amour pour nous? Dans ce que nous vivons présentement, pouvons-nous avoir confiance en un tel Dieu? Ou considérons-nous qu'il n'est pas encore assez bon pour nous? Ne murmurons pas, car dans sa grâce, Dieu répond à nos besoins, y compris notre besoin de pardon. Et si effectivement nous péchons en pensant que Dieu nous doit quoi que ce soit, si effectivement nous nous plaignons de lui, de ce qu'il a permis telle ou telle situation, la croix de Jésus-Christ, qui a été frappée à notre place, nous conduit à la repentance. Je ne peux pas me plaindre. Je ne peux pas murmurer contre Dieu. Il a été frappé à ma place. Et la croix de Jésus-Christ nous encourage, au contraire, à lui faire confiance. Il est tellement digne de confiance, ce Dieu-là. Et à nous attendre à lui. Et à chaque fois que nous jugeons Dieu à propos de ce que nous vivons de difficile, nous nous trompons. Ce n'est pas Dieu le fautif. Ce n'est sûrement pas Dieu qui nous inspire de telles pensées. Le Dieu qui se révèle à nous ce matin dans sa parole est toujours, toujours bon, patient et plein de grâce. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut toujours en discuter après. Et le Dieu qui nous a montré toute sa bonté ici est digne de confiance. Comme nous l'avons entendu il n'y a pas si longtemps, laissons la grâce de Dieu nous enseigner à vivre de manière respectueuse à l'égard de Dieu. C'est sa grâce qui nous pousse à vouloir l'honorer. Et si quelqu'un peut changer notre cœur si dur, comme nous l'avons prié tout à l'heure, et notre bouche si prompte à la plainte, c'est bien le Seigneur. Et en réalité, c'est une nécessité que Dieu travaille en nous pour ôter de nous ce penchant pour les murmures et pour la plainte. Nous avons besoin que Dieu travaille en nous pour enlever ce penchant-là. Et je voudrais maintenant vous inviter à un temps de prière.